Merci d'être ici pour cette dernière leçon, d'avoir bravé les éléments, la pluie, pour la gloire de la science. En deuxième partie de ce programme, nous aurons le plaisir d'accueillir François Bacelli, qui est professeur à l'École normale supérieure et à l'Université du Texas à Austin, et qui nous parlera de tas de choses sur les réseaux et d'autres. Et donc, alors je voulais d'abord finir ce que j'ai raconté. Alors je vais reprendre un peu pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, qu'on parle des mêmes problèmes. Alors voilà ce qu'on a. Vous vous souvenez, on a des agents. Ils sont là, nos agents. D'accord ? Et chaque agent a deux algorithmes qui peuvent être tous différents. C'est pour ça qu'ils sont autonomes. C'est pour ça qu'on les appelle des agents et pas des particules. D'abord, un agent de communication qui lui dit, elle, à tout moment, en fonction du placement de ses autres agents, lui dit à qui elle communique. Ici, elle communique avec trois personnes. D'accord ? Et comme on veut être extrêmement général au niveau de la communication, on va tolérer un algorithme quasiment arbitraire. N'importe quelle question qu'on peut poser dans le langage de premier ordre sur les réels est acceptable. D'accord ? Une fois qu'elle sait... Alors, ces flèches-là, ça indique quoi ? Ça indique qu'elle va écouter ce que ce monsieur, cette dame et celle-là ont à dire, et puis elle va penser à ce qui elle est, où elle est, et elle va décider de faire quelque chose. Et se faire quelque chose, c'est de bouger dans l'espace. Donc, elle va bouger quelque part. D'accord ? Donc, on a une fonction d'action. Dans ce cas-là, on va considérer un algorithme de diffusion, ce qui veut dire géométriquement qu'elle va se déplacer quelque part dans l'enveloppe convexe de ses influences, de ces trois personnes. Elle va se déplacer quelque part. Chacun est muni de deux algorithmes comme ça, qui, je ne le répéterai jamais assez, peuvent être tous différents. D'accord ? Et ce système évolue. Il évolue pour toujours. C'est infini. D'accord ? Voilà. Voilà, c'était pas infini, mais... Et donc, on est en dimension D. Une dimension arbitraire, parce que c'est simplement le nombre de paramètres qu'on estime devoir stocker pour représenter l'état de chaque agent. Alors, expérimentalement, quand on simule ce genre de truc, et qu'on donne n'importe quel algorithme de communication, vous inventez n'importe quoi, le truc le plus bizarroïde que vous pouvez imaginer, et vous observez ceci. Le système est toujours, toujours, toujours périodique. Ça, c'est expérimentalement, d'accord ? Il n'y a jamais d'exception à cette règle-là, il est toujours périodique. Alors, peut-on prouver ça ? La réponse est non, on ne peut pas le prouver parce que c'est faux. D'accord ? Les expériences, des fois, ça ne dit pas toute la vérité. Donc, ce qu'on va dire, c'est que ce qu'on peut prouver, ce que j'ai prouvé donc récemment, c'est qu'ils sont toujours périodiques presque tout le temps. Alors, il faudra définir ce que ça veut dire, presque tout le temps. Mais ils peuvent être chaotiques, ils peuvent même être Turing complet. Il y a tout le régime de chaos qu'on peut avoir là-dedans. Les systèmes bidirectionnels, eux, par contre, ont des attracteurs. Alors, je ne vais pas parler de ça. Je vais parler de ce premier résultat. Alors, presque sûrement, ça signifie qu'on perturbe quelque chose. On va perturber le système un tout petit peu. D'accord ? Et quand on perturbe le système, on se trouve qu'avec probabilité 1, c'est presque sûrement, presque toujours, eh bien, ça va être périodique. Enfin, pas parfaitement périodique, ça, c'est asymptotiquement périodique, c'est-à-dire qu'il y a pour chaque point de départ, ici on est dans l'espace de phase, c'est-à-dire que chaque configuration des agents représente un point ici, d'accord ? C'est pour ça qu'il y a Dn. Et donc si vous partez d'ici, c'est un système déterministe et ça va suivre une trajectoire qui se rapprochera de plus en plus d'une orbite périodique, d'accord ? Alors, il y a un phénomène de criticalité qui est très connu des physiciens, mais c'est intéressant, c'est un système entièrement déterministe. Alors et il se passe grosso modo la chose suivante. On va définir deux choses, l'énergie et l'entropie. Alors, intuitivement, c'est quoi ? Une diffusion, c'est une perte d'énergie. C'est un processus dissipatif où on perd de l'énergie. Je définirai ça de façon plus précise. Donc, le système perd de l'énergie. Mais d'un autre côté, il gagne de l'entropie. Parce qu'il y a un processus quasi-aléatoire. Et aussi, on verra ça. Pourquoi ? Pourquoi il y a un processus quasi-pseudo-aléatoire alors qu'en fait, il est déterministe ? Et donc, ces deux choses-là sont en lutte. Comme dans les systèmes de easing, les systèmes de verre de glace et des choses comme ça en physique statistique, on a ce combat donc féroce entre l'entropie qui veut gagner et l'énergie qui veut gagner. Alors, l'énergie, elle diminue. Et si par gagner, je veux dire qu'elle diminue tellement rapidement que l'augmentation d'entropie n'a pas d'effet. Et là, c'est presque tout le temps, et on est dans ce niveau-là où on se retrouve à un système périodique. D'accord ? Ça, c'est quand l'énergie gagne. C'est un processus essentiellement énergétique. Par contre, on peut avoir un régime très différent, qui est un régime entropique, où l'entropie complètement submerge l'énergie, d'accord ? Et là, on a universalité. On peut avoir des machines de Turing. D'accord ? Et entre les deux, on a tout. On a littéralement tous les comportements dynamiques, puisqu'on a l'universalité. Alors ça s'appelle la criticalité, parce que dans l'espace des paramètres, donc on va perturber ça, dans l'espace des perturbations, c'est une structure extrêmement curieuse qui est fractale et qui a des dimensions fractionnelles assez bizarroïdes. Enfin bon, voilà. Donc je vais parler un peu de cette histoire. D'accord ? Comment on fait pour prouver un truc comme ça ? Voilà. L'idée, c'est d'avoir une approche algorithmique. C'est vraiment l'idée essentielle, la philosophie essentielle de ceci et de tout le cours, en fait. D'accord ? Alors, pour simplifier, on va supposer que D est égal à 1. Donc, on est en fait à une dimension. Bon, donc, on a dans l'espace de phase, on est en dimension n. D'accord ? Donc, une configuration dans l'espace de phase, c'est un point dans Rn. Je fais ça uniquement pour simplifier. D'accord ? Et donc, l'algorithme de communication, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, il dit qu'on a des critères de sélection qui, selon l'état, donc selon où on se trouve dans cet espace, on va parler avec quelqu'un, on va parler avec quelqu'un d'autre, et tout ça. La théorie du premier ordre, il y a toute une théorie sur ça, d'élimination, et il y a un grand résultat de Collins qui dit que c'est essentiellement une théorie algébrique, qu'on peut décomposer cet espace Rn par des variétés algébriques, des polynômes, et donc on se retrouve avec des espèces de cellules, il y en a une ici, il y en a une ici, il y en a une ici, et chaque cellule est associée à une matrice stochastique unique. La matrice stochastique, c'est ce qui fait la diffusion. D'accord ? Donc, vous pouvez oublier toutes ces personnes qui se déplacent sur l'écran comme ça, on peut avoir une représentation dans votre mental très différente, peut-être plus simple, peut-être plus compliquée, ça dépend de votre état d'esprit, où on a un espace, Rn, et puis on a un point. Ah, comment j'ai fait ça ? Ah, voilà, miracle. On a un point, on avait un point. Ah, tiens, il y a le point qui arrive, c'est curieux ça. On a un point. Et donc chaque... Ce point-là, ça représente une configuration des agents. Bon, très bien. Il est dans une cellule. Eh bien, chaque cellule a une matrice. Bon, on va regarder la matrice, on va multiplier, on va interpréter cette matrice comme une transformation linéaire, et puis on va l'appliquer. Voilà, pouf, ça part quelque part ailleurs. Là, on en trouve une autre, et ça va continuer. Là, on en trouve une autre, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. D'accord ? Alors, pourquoi ce machin, c'est périodique ? En fait, si vous pensez que ça semble évident, vous vous trompez, parce que vous ne savez pas du tout. D'accord ? Après, il n'y a aucune raison que ce soit périodique. Et alors, pour comprendre ça, il faut raisonner de façon globale. Il ne faut surtout pas essayer de chercher, de suivre l'orbite, la trajectoire d'un point, puis de voir ce qui se passe. Vous n'y verrez rien du tout. D'accord ? La périodicité est une propriété globale. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est voir comment ces algorithmes d'action ils transforment l'espace de phase globalement. Donc pour faire ça, on se dit, c'est très simple. Ce machin-là, ça décompose notre espace en cellules. Chaque cellule a sa propre transformation. On va simplement prendre chacune, on va la transformer et puis voir ce qui se passe. Donc là, tout ça à O autant 0, tous les points qui sont là-dedans, autant 1, ils se retrouvent quelque part ici. Voilà, ce machin-là, ça a été transformé linéairement dans ce machin-là, et donc les points, là, ils se retrouvent quelque part ici. Là, ici, par contre, A, ce machin-là, ça tombe entre deux cellules. Donc, si vous partez d'ici et vous atterrissez sur la gauche, eh bien, vous allez ensuite avoir la transformation qui correspond à cette cellule bleue. Si par contre vous atterrissez ici, vous en allez avoir une autre. Et donc vous allez partir dans des directions différentes. D'accord ? Donc, si vous prenez les pré-images de ça, vous allez voir que ce cône-là va être subdivisé, va être partitionné en deux parties, une qui va partir ici et l'autre qui va partir là. Donc vous voyez bien que ce machin-là, ça induit une structure d'arbre. Il y a une arborescence qui se crée. D'accord ? Parce que le machin suit, puis ça se coupe en deux, puis ça se coupe en quatre, et ainsi de suite. D'accord ? Alors, ça, c'est le mieux que je peux faire en graphique, ce qui n'est pas génial. Donc, il faut faire un petit peu d'effort d'imagination. Je vais essayer de représenter cet arbre, ce qui n'est pas facile. Alors, voici un arbre. Alors, c'est un petit peu trompeur, parce que ici, au temps zéro, on retrouve ce que j'avais avant, cette espèce de division en cellules, elle est ici. Au temps 1, qui serait quelque chose ici, on va retrouver cette division, mais en appliquant les transformations, d'accord ? Qui sont piecewise et qui sont linéaires par morceaux. Bon, donc ce rétrécissement ici, en trop, c'est un petit peu trompeur, hein, mais bon, c'est comme ça. Mais on retrouve l'arborescence, par exemple, ici, 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 et ainsi de suite. Donc au moins, ça a une tête d'arbre, et ça a plus ou moins les propriétés visuelles qu'on lui veut. Donc c'est pour ça que je la mets là. Voilà. Et alors, pour bien comprendre, chaque branche, si vous suivez une branche, si vous suivez une orbite, eh bien, ça correspond à suivre une branche. Donc le long de la branche, vous allez avoir toutes ces transformations que vous allez suivre. D'abord, vous êtes transformé par ça, puis vous êtes transformé par ça, puis vous êtes transformé par ça, et ça va à l'infini. Ces arbres sont donc infinis. D'accord ? Ils sont infinis. Alors, il y a deux questions importantes qu'il faut se poser. Ah oui, en plus, on va perturber ça par epsilon. Je ne vais pas rentrer exactement comment on fait pour perturber ça, c'est un truc algébrique. Mais vous imaginez, vous perturbez un petit peu ce machin-là. Par epsilon, aussi petit que vous voulez, c'est un paramètre. Alors, il ne faut pas croire, ça serait une erreur de croire que de perturber, par exemple, si vous faites une petite translation, eh bien, cet arbre va avoir une translation. Non, pas du tout. Une petite translation infinitésimale de ça peut avoir des conséquences énormes sur cet arbre. C'est un arbre infini, des conséquences combinatoires. L'arbre peut complètement changer combinatoirement, pas uniquement un petit truc, d'accord ? Donc, il ne faut surtout pas suivre une intuition qui serait complètement fausse. Une toute petite perturbation peut vous faire passer au travers de la zone critique, donc d'une machine de Turing à un système périodique. Donc, c'est évident qu'il va y avoir des changements énormes dans cet arbre-là, d'accord ? Alors, l'idée, c'est quoi ? Qu'est-ce qui va nous dire si c'est périodique ou si c'est une machine de Turing ou si c'est chaotique ? Ben, on peut prouver des choses. Et grosso modo, on peut dire la chose suivante. Si au temps T, vous coupez tous vos arbres avec un hyperplan et vous regardez, bon, vous avez des espèces de cellules là. Ces cellules rouges peuvent se chevaucher. L'arbre, j'ai dessiné avec les branches qui ne se chevauchent pas, parce que sinon, ce n'est pas possible. Mais évidemment, comme c'est une structure arborescente, c'est tout à fait possible que ces trucs se recoupent. D'accord ? Il faut bien comprendre ça. Donc, par exemple, il est tout à fait possible que la somme des volumes de ces choses-là, des machins rouges, soit infinie, bien qu'ils soient tendent vers l'infini, bien qu'ils soient à l'intérieur, ici, d'une espèce de rectangle de dimension finie. Pourquoi ? Parce que vous en allez avoir plusieurs, et ils peuvent se chevaucher. Quand on calcule le volume, on ne calcule pas le volume de l'union, on calcule la somme de tous les volumes. D'accord ? Et l'idée, grosso modo, c'est la suivante. Quand ce plan monte, ce machin rouge, ça disparaît, plus ou moins, ou alors ça envahit. Alors, si le volume va vers zéro, ça va être périodique. Si ça va vers l'infini, ça va devenir une machine de Turing. Et si ça reste plus ou moins constant, alors là, c'est la zone critique. C'est là où il se passe des choses très, très intéressantes. Des lois de puissance et tout ça, d'accord ? Donc, bon, ce que je dis, il faut prendre ça avec un petit grain de sel, parce qu'il y a quand même des considérations techniques que je passe, mais moralement, disons, c'est correct, ce que je dis. Donc, il y a deux paramètres qui comptent. Qu'est-ce qui détermine le volume de ce machin rouge ? Ben, intuitivement, c'est clair. Quand vous montez ce machin-là, il y a deux phénomènes. Il y a l'arbre qui a des branchements. Alors, est-ce qu'il a beaucoup de branchements, cet arbre, ou il en a peu ? S'il y a énormément de branchements, vous allez avoir beaucoup de ces machins rouges, et donc le volume va augmenter. Ça, c'est clair. Mais d'un autre côté, ces branches, elles diminuent de volume. Vous voyez, c'est comme dans les arbres qu'on trouve dans le cantilatin et ailleurs. D'accord ? Et on dit que les arbres ont une structure fractale, en fait, qui correspondrait à une structure critique ici, que les arbres qu'on trouve dans la rue, que quand on les coupe, ce volume, il est constant. Bon, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment vrai. Mandelbrot disait ça, mais je ne sais pas si c'est vraiment vrai. Mais en tout cas, c'est bien comme histoire, que ce soit vrai ou faux. Et donc là, par contre, on veut savoir de quel côté on se trouve. D'accord ? C'est ça, le truc. Donc, il faut s'intéresser à deux choses, le branchement et le raffinement de ces branches. D'accord ? On peut poser la même question sur les platanes. Quel est le degré moyen d'arborescence d'un platane ? Et les branches s'affinent à quelle vitesse ? Et je suis sûr qu'on peut classifier des tas d'arbres comme ça selon ces paramètres. Alors, pourquoi ce que j'ai dit, c'est vrai ? Ça, il faut le prouver et je vais sauter ça. Pourquoi, quand le rouge plus ou moins disparaît visuellement, c'est périodique ? Quand le rouge envahit tout ça, c'est chaotique, il faut le prouver tout ça. Périodique, c'est quand même très fort. Revenons à cet arbre-là. Périodique, ça veut dire que si vous vous baladez là-dedans, au bout d'un certain temps, la branche va être la même. Elle va se répéter, d'accord ? Enfin, ça va toujours se raffiner. Mais combinatoirement, vous allez repasser par la même série de matrices stochastiques qui va devenir périodique. D'accord ? Donc, c'est quand même curieux comme truc, ça. Hein, c'est quand même bizarre. Hein, donc l'arbre entièrement va devenir périodique. Bien sûr, si c'est une machine de Turing, l'arbre, il est universel, il peut être n'importe quoi. Donc il y a deux paramètres, il y a le branchement et il y a le raffinement, qu'il faut étudier de près. D'accord ? Alors là, j'ai fait référence au concept d'entropie, qui est très, très important, et l'autre au concept d'énergie. Donc, je vais devoir quand même parler un peu de ça, parce que ça joue le rôle principal. Pourquoi on change de terminologie ? Pourquoi on n'appelle pas ça branchage simplement ? Et pourquoi on appelle ça entropie ? Pourquoi on appelle ça énergie ? Il y a des raisons, pas uniquement de nomenclature, parce qu'on va utiliser des techniques particulières à ce genre de concept. D'accord ? Notamment l'entropie, qui comme fonction a des tas de propriétés algébriques très intéressantes. Enfin, algébrique, c'est peut-être pas le mot, mais vous voyez ce que je veux dire, des inégalités. Voilà. Donc, le degré, grosso modo, voilà ce qu'on va prouver. L'arbre, au début, le degré peut être très grand. Si vous y pensez un peu et vous revenez à la décomposition de Collins, je n'ai pas parlé de ça, le degré peut être exponentiel. D'accord ? Le degré, au début, peut être exponentiel. Donc, vous pouvez avoir un nombre exponentiel de branches, c'est beaucoup. Hein ? Et le but, c'est que ce degré va diminuer. Et on veut prouver que, bon, au début, c'est très, très grand, mais ça s'essouffle, et ça va diminuer, du moins pour la plupart des epsilon. Pour certains epsilon, par contre, quand c'est chaotique, il va pas se passer ça, d'accord ? Pour la plupart des epsilon, des perturbations. Là, le degré, il est 2, là, il est 3, là, il est quelque chose. Alors, c'est quoi, cette fonction de degré, c'est quoi ? Alors, comment on fait pour... Si vous deviez essayer de dire comment on fait pour savoir s'il y a beaucoup de branchages ou de branchements ou pas, ça veut dire quoi, un branchement ? Grosso modo, ça veut dire quelque chose comme ça. Vous partez quelque part, une espèce de boule, là, vous partez, et la boule, elle va donc suivre une transformation linéaire, elle se retrouve ici, et elle va chevaucher, elle va rentrer dans le mur. Vous êtes donc l'espace de phase est divisé en pièces, des pièces un petit peu courbes et tout. Et donc, il y a des murs, et ce machin-là rentre dans un mur. C'est clair que si ça ne rentre jamais dans le mur, il n'y aura jamais de branchage. C'est clair, le branchement ne vient que du fait que ça rentre dans un mur et que ça part de chaque côté. Ça rentre dans un mur, ça va aller quelque part, ça va aller ailleurs. Et donc, il faut écrire la condition algébrique qui correspond à ça. Ben, si on y pense un peu, c'est quoi ? Ben, ça, c'est un ensemble. C'est une boule, disons, euclidienne. C'est un ensemble de points. Ça, c'est une matrice. Et ce qu'on veut dire, c'est que la transformée, donc ça, c'est un ensemble. Enfin, c'est plutôt un ensemble. Ah, je pensais que j'avais dessiné une petite ellipse, là, mais non. Enfin, en fait, c'est une ellipse, hein, parce que c'est... Bon. C'est pas un cercle. Enfin, c'est pas une boule. Enfin, toujours est-il que c'est un ensemble de points. Et ce qu'on veut dire, donc, c'est que cet ensemble de points qui est ici, il y a un polynôme, et que si la valeur du polynôme, l'ensemble des valeurs du polynôme pour toutes, pour tous ces points, c'est un polynôme à plusieurs variables, va contenir 0. Enfin, c'est clair qu'on peut toujours écrire quelque chose comme ça, parce que de dire que ce machin-là, ça coupe, ça veut dire qu'il existe des points là-dessus qui sont sur la variété algébrique. Donc, il existe un point là-dedans, il existe un point ici, où ça, c'est exactement 0. Il y a un polynôme et c'est exactement 0. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que ça, c'est ce qu'on appelle un ensemble semi-algébrique, par définition, c'est une solution de système d'inégalité algébrique. Cet ensemble semi-algébrique contient 0. Ce que vous, enfin, 0, c'est plus simple. Hein. D'accord ? Donc, on a une condition algébrique de ce qui se passe. C'est un système. C'est un système algébrique. Alors, si on dit, il y a un branchement ici, il y en a un ici, il y en a un ici, et bien on va répéter cette condition plusieurs fois. Sauf que ça va être transformé, et ça va être transformé encore, d'accord ? Mais on va avoir des conditions qui se ressemblent. Alors, les polynômes vont être différents. Ça va avoir... Donc, ça, c'est autant 0, ça, c'est autant 1, ça, c'est autant 2, ça, c'est autant 3. Simplement, si on se pose la question, mais quelle est la condition qui dit qu'on va brancher, qu'il va y avoir un branchement en temps 1, un branchement en temps 2 et un branchement au temps 3. On peut se poser d'autres questions. On peut dire branchement au temps 2, branchement au temps 34, branchement au temps 3 500 000. Et il faudra se poser ce genre de questions aussi. Les branchements ne seront pas forcément consécutifs. Mais ils vont tous avoir cette tête-là. Tous avoir cette tête-là. Ce sont donc des systèmes algébriques. Et là, un petit miracle de la géométrie algébrique, c'est-à-dire qu'en fait, on peut linéariser tout ça. En fait, on peut faire une construction tensorielle pour on linéarise tous ces polynômes et en fait ça devient en fait un argument d'algèbre linéaire sur ce qu'on appelle la rigidité des matrices. Ça, c'est un problème qui en complexité des circuits est assez vieux. C'était Leslie Valiant qui avait introduit cette question-là pour des bornes inférieures sur les circuits en disant oui non les matrices des transformations linéaires, disant oui non le rang des matrices c'est intéressant, les valeurs propres c'est intéressant, mais il y a quelque chose de beaucoup plus important pour la complexité des transformations linéaires, c'est ce qu'on appelle la rigidité. D'accord ? Et la rigidité, c'est quel est le nombre minimum de transformations. Vous allez prendre votre matrice et vous allez la changer, vous allez changer des entrées, comme ça. Quel est le nombre minimum de changements nécessaires, par exemple, pour faire diminuer le rang de moitié ? Voilà. Ça, c'est des questions qui sont complètement ouvertes. Ça, c'est étonnant. Vous pouvez penser, mais c'est l'algèbre linéaire, ça ne va pas être très dur. Ils sont complètement ouverts depuis 40 ans. D'accord ? Mais heureusement, ce problème-là est quand même plus simple. Donc, ça, c'est grosso modo comment on étudie la question du branchement. Ce sont des questions algébriques. On arrive à les linéariser et on fait l'algèbre linéaire. Voilà. Et un peu de combinatoire aussi. D'accord ? Voilà. Ce n'est pas le plus difficile. L'énergie est beaucoup plus difficile. D'accord ? Et c'est là qu'il va vraiment falloir utiliser des outils différents. Des outils qui ne sont pas classiques mathématiquement. D'accord ? Alors, cette énergie, c'est quoi ? D'abord, pourquoi je l'appelle de l'énergie ? Parce que c'est véritablement une énergie. Ces processus de diffusion, on peut les regarder de plusieurs façons. On peut les regarder de façon duale, en regardant des marches aléatoires, c'est une façon de le faire. On peut les regarder comme des circuits électriques, c'est une autre façon de le faire. On peut aussi les regarder comme des systèmes mécaniques de ressorts. D'accord ? Alors, ça marche comment ? Si votre arête, elle n'est pas orientée, eh bien, c'est un ressort tout bête. Mais si elle est orientée, eh bien, c'est un ressort à une voie. Alors ça n'existe pas dans la nature. La loi de Newton nous assure que toute force a une contre-force. Mais on peut imaginer dans votre esprit, vous imaginez un ressort qui ne tire que d'un côté, mais ne tire pas sur l'autre. Hein, peut-être qu'un jour, dans un univers parallèle, on pourra inventer ça. En tout cas, vous pouvez l'imaginer. Un ressort qui ne tire que d'un côté. D'accord ? Et donc, il se trouve qu'on peut regarder ces systèmes de diffusion quand vous avez une transformation fixe. Le problème, c'est qu'elle va changer la transformation. Vous n'avez qu'une qui est fixe. Physiquement, c'est équivalent à un système de ressort où ce que vous faites, c'est que vous faites une petite excitation de ces nœuds. Vous les déplacez, vous ne mettez pas à l'équilibre, évidemment, vous les déplacez un peu, ou alors vous secouez le tout et vous regardez ce qui se passe. Et vous allez voir, vous allez avoir un système d'oscillateur qui est couplé. Chacun est un petit oscillateur, chaque ressort, mais ils sont couplés, évidemment, ils se parlent ensemble. Et c'est damp, c'est amorti, c'est un système qui va s'essouffler parce qu'il perd de l'énergie. D'accord ? Donc, c'est ça qu'on veut mesurer, c'est cette perte d'énergie. Parce que ça va converger, ce machin-là, pour un seul graphe. Le problème, c'est que ce processus se passe, et pendant qu'il se passe, vous changez les ressorts. D'accord ? Parce que le graphe va changer. On dit, oh là là. Alors, les nœuds ne changent pas, eux, ils restent, mais alors que le système est en train de se stabiliser, vous changez les ressorts. Qu'est-ce qui se passe ? Ça converge, ça ne converge pas ? En général, ça ne converge pas. D'accord ? Mais bon, il faut comprendre ce qui se passe. D'accord ? Alors, ça, la question, à quelle vitesse ces branches se raffinent-elles ? Alors, on pourrait espérer, dans le meilleur des cas, que ça, c'est une coupe d'une branche. Et on va monter dans l'arbre. Ça veut dire qu'on monte au cours du temps. Temps 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. On pourrait espérer que ça va diminuer à une certaine vitesse. Ça serait absolument fantastique. Mais on sait que ça, c'est complètement faux. Ça ne peut pas se passer. D'accord ? Dans le meilleur des cas, on va avoir ça. Ah ! Il y a des directions qui ne rétrécissent pas. Pourquoi ? Ben, c'est clair, le vecteur 1, 1, 1, 1 est toujours... Donc, ce sont des matrices stochastiques. Le vecteur 1, 1, 1, 1 est toujours un point fixe. C'est une valeur propre. Enfin, c'est un vecteur propre, la valeur propre dominante. Hein. Donc, on sait bien qu'il y a des directions où il ne se passe rien. Il n'y a aucun rétrécissement. Donc, au mieux... Et on sait qu'il y en a toujours au moins une. Il y a toujours au moins une qui est comme ça. Donc, on sait que dans le meilleur des cas, nos branches vont se rétrécir, mais il y a au moins une direction où rien ne se passe. D'accord ? Et en fait, on va une espèce d'attracteur. Mais malheureusement, comme le système peut changer, comme les graphes peuvent changer, ce machin-là, ça peut changer. Voilà, comme ça peut passer à droite et à gauche. Alors pourquoi ? Essayons de comprendre ça. Alors là, il y a une autre façon. Alors là, je considère un cas très simple, qui est beaucoup plus simple que celui qu'on doit analyser, c'est le cas d'un graphe fixe. Imaginons, pour l'instant, que le graphe est fixe. Donc, on a un graphe comme ça, et ça ne change pas au cours du temps. Imaginons ça. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on ferait ? Ben, ça, c'est facile. C'est la théorie standard des chaînes de Markov. Donc, ça, on sait faire. D'accord ? Et c'est une théorie où l'algèbre linéaire est utile, où la décomposition en valeur, enfin, spectrale, tout ça, marche très bien. D'accord ? Mais rentrons pas dans ces considérations algébriques, parce que de toute façon, elles ne vont pas marcher plus tard. Donc, oublions tout ça, ça ne sert à rien. D'accord ? On peut regarder ça comme un système de ressort, comme je l'ai fait. Et c'est utile pour avoir de l'intuition pour comment l'énergie se dissipe et tout ça. Mais là, les ressorts, ce n'est pas très utile. On va regarder ça d'une autre façon, comme une marche aléatoire. D'accord ? Si vous avez un système comme ça, imaginez quelqu'un qui fait une marche aléatoire là-dessus. Si par ici, par exemple, ou même par ici, eh ben, une marche aléatoire va aller là, puis va peut-être aller là, puis 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 aller là. Et là, elle peut aller là, 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 et c'est tout. Ah, une fois qu'on rentre là-dedans, on est coincé. Le seul truc qu'on peut faire, c'est d'aller ici et là. De même que si jamais vous tombez chez elle, vous ne pourrez jamais en sortir. Vous êtes là. Et crac, à un moment, vous tombez ici, vous ne pouvez jamais en sortir. C'est clair que quand vous faites une marche aléatoire, où que vous partiez, vous finirez toujours par tomber ou ici ou là, à un moment donné. Et vous ne pourrez pas en sortir. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'en fait, à la limite, si vous poussez ça à la limite, tous ces éléments ne servent à rien. Et effectivement, parce que tout le monde va se retrouver ici. Donc c'est vraiment ce qui... Et ici, il y en a deux. Mais en fait, c'est trompeur, il n'y en a qu'un. Parce que ceux-là, vous allez faire des allers-retours, ils deviennent équivalents. Si ce n'est pas clair, revenons au ressort. C'est non orienté, ça. Si c'est un ressort, les deux vont se retrouver collés. Donc, ils vont compter que pour un. D'accord ? Elle ne va jamais bouger. S'il y a un ressort, elle ne bouge jamais. C'est des ressorts à une voie. Et donc, c'est certain que... Et tous les autres vont se retrouver écartelés entre les deux. Et donc, tous les autres vont être une combinaison convexe des autres. Donc, certainement, d'un point de vue algébrique, sans prouver quoi que ce soit, on sait très bien que le système aura rang 2. C'est clair. Rang 1 par L, et les deux qui se fusent contribueront à un autre rang. Ça en fera 2. Et tous les autres, ce seront des combinaisons linéaires. D'accord ? Donc, c'est un système qui a rang 2. Et ça, c'est ce qu'on appelle le nombre de classes communicantes essentielles dans la terminologie des chaînes de Markov. D'accord ? Et il se trouve que c'est la dimension de l'attracteur où rien ne se rétrécit. Vous voyez, ce tronc d'arbre qui se rétrécissait, eh ben, le long de ces choses-là, c'est un espace de dimension 2, il n'y a aucun rétrécissement. Donc c'est votre arbre, il y a un plan, c'est un truc de dimension 2, où il n'y a pas de rétrécissement. C'est un attracteur, en fait, c'est même... c'est plus qu'un truc de point fixe, c'est aussi un truc attracteur. D'accord ? Voilà. Ça, on n'aime pas du tout ça. Déjà, un, c'est pas bien, mais alors là, il y en a deux, il y a tout un plan qui ne se rétrécit pas. Bientôt, peut-être que rien ne va se rétrécir. C'est terrible, parce qu'on veut que ça se rétrécisse. C'est très, très important. Le combat entre entropie et branchement et énergie, il est basé sur le rétrécissement. Si ça ne se rétrécit pas, ça va être un gros problème. Ah, mais peut-être si ça ne se rétrécit pas, il y a d'autres propriétés qu'on a. Par exemple, regardons ici pour avoir un peu d'intuition. C'est vrai, ça ne se rétrécit pas parce que ces rangs-là, ils nous embêtent. Mais il y a peut-être d'autres avantages qu'on peut tirer de ça. Par exemple, d'accord, ils ne vont pas rétrécir, mais peut-être qu'on peut les factoriser en dehors. Parce que, après tout, peut-être que maintenant le système est décomposable. Après tout, je vous ai convaincu que tous ces agents ne servent plus à rien. Parce qu'ils vont simplement être écartelés entre les autres. Peut-être qu'on peut les enlever. Donc, l'idée, c'est que, bon, c'est vrai, c'est pas bien que ça ne se rétrécisse pas, mais peut-être qu'on peut utiliser ça pour y voir une structure différente de décomposition qui va nous aider. D'accord ? Alors, pour ça, on va utiliser ce qu'en physique, on appelle la renormalisation, d'accord ? Qui est vraiment, en physique, c'est la technique, on a un système de particules très grand, et bien, on arrive à faire de la décimation, et enfin, ça, je parle de ce qu'on appelle la renormalisation de Kellanoff et de Wilson, où on prend des groupes de particules, on les met ensemble, et on dit, ah, c'est une super particule maintenant, qui est plus grosse, mais on va la traiter comme une particule, et en faisant ça, on diminue le degré de liberté. Et on répète ça, et on répète ça, et on a des récurrences. On fait ça en physique tout le temps. C'est un des plus grands succès de la physique du XXe siècle. Les phases de transition pour... voilà. Donc, on va faire ça, mais ça va être un petit peu différent parce qu'on n'a pas des réseaux fixes. On a des réseaux qui changent tout le temps. Et ça, et on ne sait pas comment ils changent. Alors là, ce qu'on va faire, c'est... Et n'essayons pas de prouver des théorèmes ou quoi que ce soit. Alors, essayons de voir algorithmiquement ce qui se passe. Le problème, c'est avant, c'était bien là, on avait ce graphe fixe et on s'est retrouvé avec les deux groupes bleus, puis tous les autres deviennent, d'accord. Mais ça va changer. Maintenant, le graphe change tout le temps. Alors ces machins bleus, ils vont se balader, ça devient très compliqué tout ça. Donc il faut peut-être essayer de voir algorithmiquement comment ça se passe. Alors revenons à la base. Ce système, c'est un système de communication. L'information, il y a des informations qui se propagent. Par exemple, quand j'écoute les opinions de Gérard et de François, il y a une information qui me vient d'eux, qui m'arrive à moi, et puis je vais essayer de la traiter. D'accord ? Donc, il y a une information qu'on peut quantifier qui bouge. Donc, dans ce réseau, il y a des informations qui bougent tout le temps. Le réseau, lui, bouge, mais indépendamment, mais de façon différente, l'information va aussi bouger. Imaginez un système d'eau, par exemple, avec des canaux où l'eau se répand et tout. L'information se mélange tout le temps. Et revenons à ça et essayons de comprendre ça. Après tout, c'est algorithmique, ça. D'accord ? Alors, c'est ce que cet algorithme va faire. Ce flow tracker, c'est un algorithme qui est nécessaire pour la preuve. D'accord ? Donc, c'est une preuve algorithmique. Donc, je vais définir un algorithme qui est très simple, mais qui, à mon avis, est très fondamental. Cet algorithme, c'est suivant. Bon, dans mon papier, j'utilise l'analogie métaphore aquatique, mais en fait, je préfère celle que je vais vous dire, qui est plus musicale. D'accord ? Imaginez qu'il y a un chien qui connaît une chanson. D'accord ? Et donc, il la fredonne. Et ceux qui ont la bonne idée de l'écouter, eh ben, ils apprennent la chanson. Donc, lui, autant 0, lui connaît la chanson, autant 1, lui la connaît. Et c'est le seul qui la connaît. Parce que les autres, ils n'écoutent pas. Alors, le graphe change. Mais autant 3, le chat va écouter, il écoute. Donc, le chat va apprendre la chanson et elle va apprendre la chanson par lui. Donc, ça va se propager. D'accord ? Et ainsi de suite. Et c'est important que, comme le graphe change, on ne sait pas comment il change, on ne sait même pas la vitesse de propagation. C'est ça la grande différence avec la renormalisation en physique. En physique, on peut faire tous ces genres de choses indépendamment du processus physique. D'accord ? Le réseau est fixe, on peut faire des prédictions, on sait exactement comment l'information se propage dans un système de Ising. Là, on ne sait pas du tout, on n'en a aucune idée. D'accord ? Ça fait partie de l'algorithme. Donc, au lieu d'avoir des récurrences qui nous disent comment l'information se propage, on n'a pas de récurrence, on a un algorithme. C'est le mieux qu'on puisse faire, c'est d'avoir un algorithme. Donc, c'est un algorithme de propagation. Quand on arrive, là, tout le monde connaît la chanson sauf elle. Ah, là, elle la connaît. Alors, tout le monde connaît la chanson. Là, on peut prouver... Erreur. Gérard a... OK. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Prétendons qu'elle connaît la chanson. Pardon. Voilà, elle connaît la chanson. Donc, tout le monde connaît la chanson. Et quel est l'avantage de la chose ? Eh bien, on peut prouver quelque chose, c'est que ça diminue un peu. La branche diminue un peu. On peut prouver ça algébriquement. D'accord ? Donc, on a un algorithme, et donc, c'est très simple. Une fois que tout le monde connaît, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va enlever... tout le monde va devenir amnésique, sauf le chien, et on va répéter. Donc, on va dire à tout le monde d'oublier la chanson, et on va répéter. On va répéter à l'infini, tout le temps. Ben c'est bien ça. On va faire ça. Oui, enfin, il y a des problèmes quand même. Je vais vous montrer le problème. C'est que, bon, répétons. Alors, le chat le connaît, elle la connaît, lui le connaît, c'est bien. Ensuite, on n'oublie jamais la chanson, d'accord ? Une fois que vous avez la chanson, vous n'oubliez pas. Sauf quand tout le monde connaît la chanson, on vous tape sur la tête, amnésique, crac, vous ne savez plus rien. Et vous recommencez, d'accord ? Voilà, c'est ça l'algorithme. Alors là, voici le problème. Tous ceux-là savent la chanson et personne ici ne la connaît. Et on attend. Ça se passe... on a commencé lundi, on est jeudi, et voilà où on en est. Et là, on attend vendredi, il ne se passe rien. Samedi, il ne se passe rien. Dimanche, il ne se passe rien. Quand je dis « il ne se passe rien », entendons-nous bien, le graphe peut changer tout le temps. Mais vous voyez, le problème, c'est que toutes ces flèches vont dans ce sens-là. Donc, personne ici n'est en mesure d'apprendre la chanson. Alors, ces flèches peuvent changer, mais vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, les flèches qui sont là, elles peuvent changer, mais elles vont toujours du mauvais sens. Elles vont toujours dans le sens où c'est impossible pour eux d'apprendre la chanson. Alors, vous attendez, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, et puis vous attendez, et vous dites, mais je vais attendre pendant combien de temps ? Ben, il y a deux possibilités, ou bien ils ne l'apprendront jamais, et c'est infini, c'est tout à fait possible, ou alors ils l'apprendront à un moment. Et là, il faut savoir... Donc, il y a un moment T1 où ils vont l'apprendre. Est-ce qu'il nous faut des bornes sur T1 ? C'est extrêmement important d'avoir des bornes sur T1. Et c'est là aussi une différence avec... On est forcé de faire du quantitatif, d'accord ? On ne peut pas faire une analyse qualitative de ça. À un moment, on est forcé d'avoir des choses du genre. Eh bien, si jamais la chanson se propage de nouveau vers E, on va attendre un nombre d'étapes T1, il nous faut des bornes sur T1. On ne peut pas dire bah, T1, c'est une variable. Non, c'est impossible. Il nous faut des bornes, d'accord ? Donc, on va traiter T1 comme une variable, et plus tard, on va avoir des relations entre ces T1, ces T2, ces T3, et on va pouvoir les borner, d'accord ? Pour l'instant, on n'a aucune idée. Et donc, on va laisser ça en suspens. Mais pendant les T1, pendant cette période T1, on ne connaît pas T1, mais on a une période T1 où on sait qu'il n'y a aucun contact de l'un de l'autre. Donc, cette chanson ne peut pas transmettre, ne peut pas franchir cette muraille. C'est la muraille de Chine de la chanson, d'accord ? Pendant T1. Alors, qu'est-ce qu'on fait là ? Bah, peut-être qu'on peut décomposer le système, parce qu'après tout, ceux qui sont ici, ils sont complètement isolés du reste, ils ne vont jamais entendre cette chanson. Bah, peut-être qu'on peut répéter le processus récursivement vis-à-vis d'eux, en lui apprenant la chanson et en voyant comment ça se... Donc, l'idée algorithmiquement, c'est de dire, ben voilà, on a eu un découpage, ceux-ci n'ont plus aucune influence sur cela, eh bien, on va les prendre, on va les séparer et on va les traiter récursivement. D'accord ? On ne connaît pas leur taille, on ne sait pas. Hein, voilà, c'est ça la différence. On ne sait pas, par exemple, il y en a combien ? Il y en a 6, il y en a 5. On ne connaît pas ce chiffre-là. On ne sait pas qu'il va y en avoir 5. Mais il y a un certain nombre. Et ça va durer pendant un temps T1. On ne sait pas ce que c'est T1. Mais ça, tant pis. On peut quand même symboliquement écrire ce processus. Et donc, ceux-là vont partir. Voilà. Ah oui, alors l'autre, par contre, est-ce qu'on peut faire pareil ? Est-ce qu'on peut découpler ceci de cela ? Ben non, on ne peut pas. Parce que, pensez au truc des ressorts. Si vous avez des ressorts, évidemment, eux, on peut les découpler parce que ce sont des ressorts à une voie. Et donc, il n'y a aucune influence mécanique de ceci sur cela. Ceux-ci sont mécaniquement complètement indépendants. Mais ce n'est pas vrai dans l'autre sens. Ceux-ci, mécaniquement, sont à la merci. Ces flèches-là, elles les tirent. D'accord ? Et donc, on ne peut pas simplement dire ben, « c'est découpé ». Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est la chose suivante. L'individualité de ces agents ne nous importe pas. Nous, ce qu'on sait ici, c'est qu'on va être tiré. Et donc, on peut remplacer ça par un super-agent. Et c'est là la normalisation à la Kadanoff, où on remplace ça par un super-agent en disant on se moque des détails. C'est un peu la modularité. On se moque des détails de ce qui se passe, comment ils vont se... On va avoir un super-agent, et le seul truc qui nous intéresse à l'interface avec l'extérieur, c'est de quelle force il nous attire. C'est tout. D'accord ? Et donc, résumons. On avait un système avant, qui maintenant on a décomposé en ce système-là et un système-là. Donc, on a une partition des agents, sauf celui-là, il y a un super agent qu'on a créé, qui est une espèce de résumé simplifié de tout cela. D'accord ? Et on va pouvoir traiter ces deux systèmes maintenant indépendamment. Alors, les traiter indépendamment, chacun correspond à un arbre. Et donc, on va faire ce qu'on appelle une somme directe, c'est une opération tensorielle sur ces processus, d'accord ? Et on va pouvoir former, et on va faire ça pendant tout le cours, et de ça, on va pouvoir tirer des récurrences sur T1, parce qu'il nous faudra T1, pas exactement, mais il nous faudra des bornes sur T1, des bornes asymptotiques, d'accord ? Alors, cette opération, c'est... Ça, c'est un arbre qui correspond à ça. Il y a un arbre de codage qui correspond à ça. Cette opération, c'est une opération tensorielle. C'est une somme directe. Et ça veut dire, en pratique, si vous en prenez un comme ça, vous avez un truc très, très... qui est formé en prenant toutes les paires d'arbres, de branches. Alors, il y a un nombre de branches infinies. Ce sont des arbres infinis. Ben, ça n'empêche, c'est comptable. Vous pouvez former toutes les paires de branches ici et de branches là. Et chaque paire forme une branche ici, d'accord ? Donc, c'est dans l'espace des branches infinies, ceci, c'est le produit cartésien, d'accord ? De ces machins-là. Voilà, donc c'est pour ça, c'est une opération tensorielle, c'est pas uniquement... Bon, imaginons qu'après T1, la propagation reprend. La propagation de la chanson reprend. Elle va passer ici, la chanson, après T1. Et bien, ce qu'on va faire, on va continuer. Alors, on va prendre ça, qu'on a décomposé récursivement, on va en faire un seul système qui est maintenant écrit de façon tensorielle et on va le conjuguer, le composer avec ce qui suit dans le temps. Et ça, c'est aussi une opération tensorielle, mais c'est une opération de produit. C'est un produit direct. D'accord ? Alors, le produit direct, il fait quoi ? Si vous prenez un arbre de collage et vous en prenez un autre, eh bien, ça correspond à quelque chose comme ça. D'accord ? Ah, bon, ces branches sont infinies, on va la couper quelque part, on va prendre une branche infinie, on va la couper quelque part, et on va coller ce machin-là. C'est ça, c'est cette opération. D'accord ? La première est bien sûr commutative. L'addition, la somme directe est commutative. Ça, évidemment, ça n'est pas commutatif, car ça respecte le temps. Et le temps n'est pas commutatif, évidemment. D'accord ? Voilà. Donc, on a... Alors, pourquoi on fait tout ça ? Bien parce que ça nous permet de réécrire ce machin-là de façon générative. On va écrire un circuit, si vous voulez, qui va nous générer cet arbre-là. D'accord ? Et ce circuit, il sera écrit dans un langage de tenseur. Alors, il y a d'autres opérations. Il y a l'opération de renormalisation ici, ça, je vous... Puis il y a d'autres trucs ici, donc... Bon. Mais c'est un circuit qui est... Enfin, c'est une... On réécrit ça, disons, dans ce machin-là, et ça, c'est une expression qui est infinie, qui est, et qui est récursive, parce que ça, c'est des machins récursifs de ça, d'accord ? Donc, ça paraît un peu compliqué, et donc, peut-être qu'on peut se demander, mais quel est l'avantage de faire ça ? Alors, avant que j'arrive à ça, quel est l'avantage de ça ? Il faut bien comprendre, et ça, c'est un point sur lequel je n'insisterai jamais assez, on est passé de là à là en physique. Quand on fait de la renormalisation, pour passer de là à là, c'est un truc qu'on fait en 10 minutes avec un crayon. C'est même complètement trivial, cette renormalisation, au niveau, pas de calculer les paramètres d'ordre et tout ça, mais de savoir la décimation, c'est complètement trivial. Ici, on ne peut pas faire ça de façon close. Il y a un algorithme, c'est un compilateur en fait. Le flow tracker, c'est un compilateur qu'on a inventé, et on applique ce compilateur pour nous former cette expression. D'accord ? Et ça correspond à une décomposition, de même qu'un compilateur va nous décomposer de façon hiérarchique un programme. Quand vous écrivez un programme, c'est ce que ça fait. Eh bien, ça fait pareil. Ça va nous prendre notre arbre infini qu'on ne connaît pas trop, et ça va nous le décomposer de façon hiérarchique. Mais là encore, la décomposition n'est pas indépendante. Je ne peux pas vous dire, oui, vous décomposez en mettant trois à la fois tout le temps. Non. Ça... La façon dont sont décomposés est dépendant de l'algorithme dynamique lui-même du processus. Donc c'est là que c'est très important. La renormalisation elle-même est un système dynamique, mais qui dépend du système dynamique original. Alors qu'en physique, la renormalisation est effectivement un système dynamique, mais par contre qui est indépendant, d'accord, du processus dynamique de particules qu'on utilise. Donc ça, c'est la grosse différence. Donc résumons. On a une espèce d'objet qui bouge tout le temps et on veut comprendre ce qui se passe. Eh bien, on peut très bien définir cet arbre de codage, c'est trivial. On définit abstraitement, de façon complètement évidente. On le secoue un peu pour faire des permutations, des perturbations, et on va, avec un compilateur, qui est le flow tracker, faire tout ça. On a des... Alors, tout ça, il faut bien voir, c'est... Ce sont des preuves, mais ce ne sont pas des preuves assistées. Hein. Je ne vais pas écrire un programme qui va compiler tout ça. Tout ça se fait avec un crayon, d'accord ? Ce sont des preuves classiques. Sauf que l'approche n'est pas classique du tout, parce qu'on utilise des algorithmes, véritablement des algorithmes, d'accord ? Alors, d'ailleurs, peut-être que je veux rajouter un petit quelque chose là, d'accord ? Après tout, ces techniques marchent pour des situations où les graphes changent tout le temps. Donc, en théorie, ils doivent marcher quand le graphe ne change jamais. Un cas simple. Mais quand le graphe ne change jamais, on a d'autres techniques spectrales pour faire ça. Est-ce que quand on spécialise cet algorithme au cas où rien ne change, est-ce qu'on retrouve la méthode spectrale ? Et la réponse, c'est oui. Et ça, c'est très important de comprendre pourquoi. Parce que, à mon avis, au niveau de la méthodologie, c'est très important. D'accord ? Alors, peut-être que... Ça, c'est l'avantage des mathématiques constructives. Alors, on approche ce problème-là en disant « Ouais, c'est des transformations linéaires qu'on compose, très bien, on va les décomposer selon leur mode propre, d'accord ? Donc, les vecteurs propres et tout ça. » Ah, on ne peut pas. Ah ben c'est embêtant, ça. Ben non, on ne peut pas, ça n'a aucun sens, ou bien on ne peut pas les dégaliser, ou même pire que ça, les bases changent tout le temps, donc ça ne marche pas. N'arrêtons pas. Au lieu de simplement abandonner, on va abandonner le théorème. Mais ce qu'on va dire, c'est, ah, attendez, le théorème qui ne marche plus, donc, examinons la preuve qu'il y a avant. D'accord ? Donc, au lieu de regarder le théorème de décomposition de sens spectrale, on va regarder la preuve dans les manuels classiques. Alors, il y a plusieurs preuves différentes, mais il y a des preuves algorithmiques. Par exemple, vous pouvez utiliser la méthode des puissances ou la méthode de Lanczos. La méthode de Lanczos est une méthode très, très efficace pour calculer les valeurs propres d'une matrice. D'accord ? Cette méthode de Lanczos, qui donc fournit une preuve de la décomposition spectrale, vous pouvez la regarder, c'est un algorithme. Alors, si vous la regardez, effectivement, vous vous rendez compte que ça ne peut pas marcher pour votre cas, où les graphes changent. Mais un algorithme, ça se modifie très facilement, alors qu'un théorème, ça ne se modifie pas. Ce que je veux dire, c'est que je vais prendre l'algorithme et je vais dire, mais cet algorithme, c'est un algorithme de flow. Quand on regarde vraiment de près ce qui se passe, on suit un flow, sauf qu'il y a des structures que je n'ai plus maintenant. D'accord ? Mais le flow marche toujours. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer de cet algorithme, de Lanczos, et je vais simplement dire, bah, j'ai un algorithme, bah, je sais faire des algorithmes, je vais faire des algorithmes plus sophistiqués. Ça va s'arrêter, des fois, pas de problème. On va mettre un paramètre d'attente, T1, et puis ensuite, on va refaire ça. Et donc, ce que je veux dire, c'est que oublier le théorème lui-même, qui n'est plus du tout applicable, et ce n'est pas la peine d'essayer de l'étendre, ça ne marchera jamais. Mais par contre, la preuve constructive, algorithmique, elle peut vous aider à faire d'autres choses. Un exemple quand même très célèbre de ça, c'est... il y a des tas de manières de prouver qu'une matrice singulière, on peut l'inverser, mais il y a une manière algorithmique, c'est l'élimination de Gauss. Et si vous transformez l'élimination de Gauss, vous avez l'algorithme du simplex. Alors ça, c'est vraiment l'exemple historiquement le plus probant que je connaisse, où quand on oublie le théorème et ce qu'il dit, regardons l'algorithme et disons c'est intéressant, peut-être qu'on peut utiliser l'algorithme pour autre chose en le modifiant. Oui, par exemple, on peut créer une révolution dans l'optimisation linéaire qui s'appelle le simplex. D'accord ? Et ça, c'est uniquement en modifiant des algorithmes de preuve connus. Et donc, ça, c'est une méthode que je suggère, qui est très... D'accord ? Mais là, l'important, c'est justement d'aller voir les preuves, des preuves algorithmiques. Effectivement, il y a beaucoup de preuves en maths qui ne sont pas algorithmiques, qui sont, par exemple, des points fixes. Topologiquement, on sait que ça doit exister et tout ça. D'accord ? Souvent, Perron-Frobenius, c'est comme ça, c'est des théorèmes de points fixes. Bon. Des fois, ce n'est pas le cas. Alors, pour conclure, donc c'est très important, de même qu'on étudie des équations avec des équations, eh bien, on va étudier des algorithmes naturels avec des algorithmes. Alors, en fait, mon travail sur les algorithmes naturels, il a commencé par ça. En fait, je vous ai un peu présenté tout ça en sens inverse, chronologiquement. J'ai commencé par travailler sur les oiseaux, en fait, en regardant des choses comme ça et en me disant, mais c'est curieux, ça, ils ont tous un algorithme et puis ils le suivent, il se passe des choses remarquables, d'accord ? Alors ça, c'est un peu compliqué quand même, hein, et puis d'ailleurs, personne ne sait vraiment pourquoi ils font ça, et il y a quand même des choses remarquables, il y a à peu près, il y a un petit peu au-dessous de 1 million d'oiseaux, il n'y a jamais de collision, d'accord ? Ça, c'est près de Oxford, en Angleterre. Et c'est tous les soirs, pendant plusieurs mois. On a l'impression qu'ils se réchauffent avant d'aller dormir. Hein, c'est un petit peu l'idée. Et le paradoxe de l'anniversaire, c'est qu'ils devraient se rentrer dedans tout le temps, mais non, jamais. Si vous imaginez à Roissy, si vos avions, c'était comme ça. Eh bien non, jamais, il n'y a jamais de collision. Alors c'est vrai que ça serait bien de savoir comment ils font ça. Alors ça, c'est très complexe et personne n'a aucune idée. Je n'ai aucune idée. Mais il y a des modèles plus simples. Par exemple, pourquoi les oiseaux convergent en triangle, souvent ? Ça doit être plus simple que ce machin. Alors, il y a un modèle de Vishek, Kukul et Smale, très, très classique, qui simplifie beaucoup de choses, bon, qui fait beaucoup d'hypothèses peut-être ridicules, hein, mais bon, c'est pour pouvoir faire. Et donc, il y a eu des travaux de... C'est un physicien, ce sont des mathématiciens. Et le modèle est très joli, il ressemble un peu... C'est un système c'est un système diffus, c'est un système d'influence, comme j'ai défini, mais il n'est pas diffusif, celui-là, par contre. Et l'idée, c'est la suivante, c'est que chaque oiseau regarde dans une espèce de rayon fixe, et donc ça définit un graphe. Et ce qui se passe, c'est que on prend la vélocité, le vecteur de vélocité donc de chaque oiseau, il regarde la vélocité de ses voisins et il fait une espèce de moyenne de vélocité pour s'aligner. D'accord ? Bon. Et c'est tout. Donc, généralement, il y a d'autres règles. Hein, mais là, uniquement dans ce modèle-là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ça ? Et ça, c'est suffisant pour avoir des triangles. D'accord ? Donc au moins, on sait que ce n'est pas complètement idiot. Et donc, voilà, ça évolue, ça évolue. Là aussi, le graphique n'est pas génial, je m'excuse. C'est un peu honteux pour un informaticien de vous donner ça. Mais enfin, bon. Mes amis qui font du graphisme à Princeton, ils sont très gentils, mais ils ont, je crois, des choses plus intéressantes à faire que me donner des photos. Et donc, ce graphe change tout le temps, et on va se poser la question, mais avant de se poser la question, est-ce que ça devient un triangle, mais est-ce que ça s'arrête de changer, ou ça change tout le temps ? D'accord ? Donc j'ai prouvé que ça... Effectivement, ça convergeait. Et c'est le premier résultat qui n'a aucune hypothèse. Parce qu'il y a beaucoup de résultats antérieurs qui ont toutes des hypothèses. Des hypothèses du genre de connectivité, les oiseaux se connectent un temps infini, blablabla. Bla, bla, bla. Et là, c'est sans aucune hypothèse. D'accord ? Et alors, quand on regarde le temps, ce qui se passe, d'abord, les oiseaux, au début, ils peuvent faire un peu n'importe quoi. On ne sait vraiment pas ce qui se passe. Ils volent un peu dans tous les sens. Très difficile de savoir ce qui se passe au début. D'accord ? C'est un petit peu... C'est un système hors d'équilibre où il se passe un peu n'importe quoi. D'accord ? Et puis, petit à petit, ils vont se former des flocks. Je ne sais pas comment on dit en français. Une nuée ou un truc comme ça. Ils forment des nuées. Et à un moment donné, voilà ce qui se passe. Les nuées sont formées et on peut prouver qu'il n'y a plus de désagrégation possible. C'est-à-dire qu'une nuée ne peut plus se scinder en deux. Alors, avant, elle pouvait, maintenant, elle ne le peut plus. Mais par contre, ce qui peut se passer, c'est que deux nuées peuvent s'unifier en une. Donc, à partir de ce moment-là, on n'a qu'une espèce de mouvement d'arbre, si vous voulez, où les nuées ne peuvent que se unifier. Et finalement, ça converge. Alors, converge, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de nuées, hein, peut-être une, peut-être plusieurs, et que tout le monde part dans ça. Alors, une fois qu'une nuée est formée à l'équilibre, l'équilibre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le centre de gravité, si vous mesurez le centre de gravité de la façon dont il faut, ce centre de gravité a une vitesse constante, a une vélocité constante. Par contre, on a toujours des oscillateurs ici, chaque oiseau peut osciller autour de ça tout le temps. Mais l'oscillation ira de moins en moins. C'est comme un système de ressort, d'accord ? C'est un système oscillateur. Mais par contre, le centre de gravité, lui, a une valeur constante. C'est la valeur propre de cette composante. D'accord ? J'ai réussi à borner les temps. Ce temps-là, par contre, je n'ai pas de preuve d'optimalité. Donc, c'est une bande supérieure, mais je ne sais pas la bande inférieure. Ça, par contre... Bon, je ne vous embête pas avec la forme exacte, ce n'est pas important. Mais ça, par contre, curieusement, j'ai une bande qui est exacte, qui a eu une bande inférieure. Donc je peux, en fait, c'est une fonction très élevée, et je peux, effectivement, organiser un groupe d'oiseaux tel qu'il convergera exactement dans ce temps-là, et c'est optimal. D'accord ? Donc c'est bien, ça. Alors... Bon, j'ai pratiquement plus de temps, donc je ne veux pas rentrer dans un truc, mais uniquement dans l'esprit de, pour prouver des choses sur les algorithmes, utilisons des algorithmes et pas des équations. Enfin, si on peut utiliser des équations, utilisons des équations. Les équations, c'est toujours mieux que les algorithmes. Mais le problème, c'est que ça ne va pas marcher pour des trucs comme ça. D'accord ? Donc, on va utiliser des algorithmes. Alors là, on en utilise plusieurs, des algorithmes, mais je veux en mentionner un. D'accord ? Le problème, c'est le suivant. Chaque oiseau, par exemple, si vous essayez de prouver qu'un oiseau ne peut pas vraiment faire des zigzags, ben évidemment, ça, c'est faux, parce que ça, c'est intéressant comme exercice de, si vous n'avez rien de mieux à faire dans l'avion ou dans le train ou je ne sais pas quoi. Des oiseaux, il peut y avoir une collusion. Ou imaginez, il y a 100 oiseaux et 99 décident de s'acharner sur un pauvre oiseau pour le faire tourner en boucle. Question, par exemple, vous voulez qu'il fasse une figure 8. Quel est le nombre minimal d'oiseaux et comment les programmez-vous avec ce système-là pour forcer un oiseau à faire un 8 ? D'accord ? Et vous pouvez forcer un oiseau à faire n'importe quoi. D'accord ? N'importe quel. Vous pouvez tracer n'importe quelle figure, vous pouvez tracer l'œuvre de Shakespeare et vous pouvez forcer un oiseau. Donc, tout théorème qui dit un oiseau ne peut pas trop bouger est faux. D'accord ? Donc, tous les oiseaux peuvent faire des trucs comme ça. Alors, c'est pas très. C'est... Parce qu'on veut prouver ce genre de choses, qu'il y a un point faible, il y a un truc qui ne peut pas se passer. Sinon, si tout peut se passer, on ne peut rien prouver. Alors, on va faire de la géométrie algorithmique et voilà ce qu'on va faire. On va dire, bah, c'est un oiseau. Remontons dans le temps. Pourquoi il est là, lui ? Bah, il est là parce qu'au temps précédent, sa vélocité a fait la moyenne de lui-même et puis de deux autres oiseaux. C'est pour ça qu'il se retrouve là. Et donc, on a une espèce de petit simplex, de petit cône convexe, et la vélocité de ce machin se trouve là-dedans. D'accord ? Ça, c'est géométrique, d'accord ? Donc, alors, ça, c'est en dimension 4, parce que les oiseaux, ils vivent en dimension 3, mais on est dans le temps, et on remonte dans le temps. Donc, on est en dimension 4. D'accord ? Et donc, et ça se répète. C'est ce qu'on appelle le flight net. D'accord ? Et là, on va se poser des questions du genre qu'on se pose en mécanique statistique de chemin d'intégrale. D'accord ? On a une arborescence exponentielle et on veut prouver qu'il y a des chemins spéciaux. Notamment, je veux prouver qu'il y a des chemins qui sont presque tout droits. Alors, un chemin, c'est quoi ? C'est de suivre un de ces trucs-là. Alors, rappelez-vous bien que si vous suivez un chemin arbitraire, ce n'est pas forcément le même oiseau que vous allez suivre. Parce que, effectivement, un oiseau ici se retrouve comme ça. Mais si vous suivez un truc dans l'autre sens, par contre, vous pouvez évidemment passer d'un oiseau à un autre. D'accord ? Par exemple, ici, il y a trois chemins possibles. De là, cet oiseau n'en correspond qu'à un seul. Peut-être que celui-là vient d'ici. Donc, si vous allez de là à là, l'oiseau qui correspond à ça n'est pas le même que celui-là. Vous changez d'oiseau. D'accord ? Alors, la question, c'est la suivante, et elle est algorithmique. Ça veut dire quoi, qu'il y ait un chemin presque droit ? Ça veut dire qu'il y a un truc comme ça, et c'est plus ou moins en ligne droite. Enfin, il y a une courbure, mais on peut la aborder, d'accord ? C'est presque droit. Alors que chaque oiseau peut faire des zigzags et des machins, et ben dans cette structure-là, il y a au moins un chemin. Alors, mais ça correspond à quoi, ça ? Et ben, ça correspond à la chose suivante. Ça se trouve, l'oiseau ici n'est pas le même que celui-là. Mais ils ont été voisins. Et donc, si celui-là a un bâton à la main, enfin, ça n'a pas de main, un oiseau, dans son bec, et quand ils étaient voisins, il l'a passé à son copain, alors, et que lui l'a passé à son copain, et lui l'a passé à son copain quand ils étaient voisins, eh bien, ce qu'on veut dire, c'est qu'en fait, ce bâton, enfin, ce témoin, comme les témoins dans les courses aux Jeux Olympiques, ce témoin a suivi une ligne droite, plus ou moins. Donc, imaginez une foule de gens qui font des tas de mouvements bizarres, et il se passe un témoin de façon très, très élaborée, de façon que le témoin, lui, va en ligne droite, alors que tout le monde va en zigzag. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous avez le témoin, tant que vous allez droit, ça va, mais dès que vous tournez un peu, vous le donnez à quelqu'un qui, lui, va aller en ligne droite. Question, est-ce qu'il existe une manière... Alors, regardez comment je pose la question. C'est une question algorithmique. Existe-t-il un protocole de passage de témoins qui garde le témoin en ligne droite ? C'est une question algorithmique. C'est un défi que je donne aux oiseaux en disant, mais est-ce que vous pouvez voir un algorithme distribué de passage de témoins qui garde le témoin en ligne droite. Je demande, est-ce que vous avez un algorithme ? Et les oiseaux vont répondre, oui. Et donc, les oiseaux vont me donner... Enfin, les oiseaux, c'est moi qui me parle à moi-même, mais c'est... Ils vont retrouver un algorithme de passage de témoins et on va prouver ensuite que l'algorithme marche. C'est-à-dire, pas marcher, ça veut dire... Alors là, la complexité n'a aucun rapport avec n'importe quoi, on s'en moque complètement de la complexité, c'est uniquement la question de savoir si c'est possible, s'il existe un algorithme de passage de témoins qui le garde en ligne droite. D'accord ? Donc c'est une question éminemment algorithmique. Donc le témoin, il est là, et on va le passer à droite et à gauche, et tout, et tout. Et donc c'est la conception d'un algorithme de passage de témoins qui, a priori, n'a rien à voir avec le vol des oiseaux, qui va nous aider à prouver un théorème. D'accord ? Et donc, ça, c'est vraiment une espèce de philosophie au niveau de la méthodologie qu'on retrouve de plus en plus. Voilà, c'est la preuve de l'algorithme, bien sûr. Bon, je vous remercie. Moi, la contribution est terminée. Je vous remercie de votre... présence.